Être aimé de Dieu, avoir sa faveur, c'est une grande bénédiction, hein? Alors, est-ce que vous êtes aimé de Dieu ce matin? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous comptez parmi ces enfants dans la grande famille de Dieu? Quelle que soit votre situation, vos épreuves, vos difficultés, rien ne nous retirera de la faveur de Dieu. C'est ce que explique l'apôtre Paul au chapitre 8, juste avant le texte qu'on va voir aujourd'hui. Et il y a peut-être une crainte qui pourrait surgir dans notre cœur. Est-ce que Dieu m'aimera toujours? On avait vu ça la dernière fois. Et la réponse de Paul par le Saint-Esprit était claire. Même si on voit dans les apparences Israël a échoué, Israël a trébuché. Dieu n'a pas échoué pour autant, et il explique que tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et que seuls les enfants de la promesse sont finalement enfants de Dieu. On ne devient pas Dieu par son père, enfant de Dieu, pardon, par son père, par sa mère, ou par ses mérites, mais c'est Dieu qui vous a choisi, qui m'a choisi, qui nous a choisi. Alors on va lire cette réponse de Paul, Romains chapitre 9, je vais reprendre au verset 6. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit sans effet. Ceux qui sont issus d'Israël ne sont pas tous Israël, et bien qu'étant de la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Au contraire, il est dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Cela signifie que ce ne sont pas les descendants simplement biologiques qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont considérés comme sa descendance. La parole que voici est en effet une promesse. Je reviendrai à la même époque et Sarah aura un fils. De plus, tel a aussi été le cas pour Rebecca qui a eu des enfants d'un seul homme, notre ancêtre Isaac. Ses enfants n'étaient pas encore nés, n'avaient pas encore fait ni bien ni mal, afin que le plan de Dieu subsiste conformément à son choix. Ça ne dépend des œuvres, mais de celui qui appelle. Quand il a été dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. Et le verset qui nous intéresse, c'est le dernier. De même, il a été écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. Alors quelqu'un à ce stade peut dire, mais moi je trouve que ce n'est pas juste. Pourquoi Dieu n'a pas aimé Ésaü? Je ne veux pas de ce Dieu injuste qui aime un tricheur et qui rejette celui qui est sympathique. Et c'est vrai que dans l'histoire, Jacob n'est vraiment pas sympathique. Et à nous qui entendons ça, peut-être un doute peut surgir dans notre esprit, mais est-ce que l'amour de Dieu est pur? Est-ce que cet amour dont il m'aime est vraiment pur? On peut se poser cette question, il y a un défi derrière, parce que le psaume 85, qu'on avait regardé ensemble il n'y a pas très longtemps, avec Patrick, dit ceci. Psaume 85, 10 et 11. Le salut est près de ceux qui le craignent, l'Éternel, afin que la gloire habite dans notre pays. Verset 11, la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Et quelques pages plus loin, psaume 89, verset 15, la justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Si la justice de Dieu n'est pas parfaite, si Dieu n'est pas parfaitement juste en ayant choisi Ésaü et en ayant en ayant choisi Jacob et en ayant repoussé Ésaü, alors si sa justice n'est pas parfaite, son amour non plus n'est pas parfait. Les deux doivent être parfaits, et la justice et l'amour, les deux vont ensemble. Notre texte, donc, ceci est la suite de notre texte. Que dirons-nous donc? Verset 14, Romains chapitre 9. Dieu serait-il injuste? Certainement pas. Certainement pas. Et l'apôtre Paul est très clair, non, Dieu n'est pas injuste. En ayant aimé Jacob et en ayant détesté ou haï Ésaü. Il avait déjà, l'apôtre Paul, parlé de qu'il n'était pas injuste. Dieu n'était pas injuste parce que tous les hommes sont pécheurs et Dieu rend juste par le sacrifice expiatoire de son Fils Jésus-Christ. Paul avait déjà parlé de ça, hein, Romains chapitre 3, et le problème n'est pas de savoir si Dieu est juste ou pas, mais le problème de savoir c'est est-ce que nous, nous sommes justes ou pas devant lui. C'est ça la vraie question qu'il faut se poser et de laquelle l'apôtre nous oriente en Romains chapitre 3. Et pour Dieu, tous les hommes sont pécheurs. Il répond à une série de questions, comme là en Romains chapitre 3, que je vais parcourir rapidement. Quel est donc l'avantage des Juifs? Quelle est l'utilité de la circoncision? Cet avantage est grand de toute manière. Tout d'abord, c'est à eux que les paroles de Dieu ont été confiées. Que dire si quelqu'un n'a pas cru? Leur incrédulité annulerait-elle la fidélité de Dieu? Certainement pas. Reconnaissons que Dieu est vrai, tout homme menteur, comme cela est écrit. Ainsi tu as été trouvé juste dans tes paroles et tu triomphes dans ton jugement. Romains chapitre 3, verset 5. Mais si notre injustice met en évidence la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle ici à la manière des hommes. Certainement pas. Autrement, comment Dieu pourrait-il juger le monde? Et si mon mensonge fait d'autant plus éclater la vérité de Dieu pour sa gloire, pourquoi donc serais-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il résulte du bien? Comme quelqu'un pour nous calomnier prétende que c'est ce que nous disons. La condamnation de ces gens est juste. Que dirons-nous donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que le juif et celui qui n'est le non-juif sont tous sous la domination du péché, comme cela est écrit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils ne se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédictions, d'amertume. Leur pied court pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Alors, tous les hommes sont pécheurs. Aucun ne mérite cet amour de Dieu, finalement. C'est ce que fait la démonstration de l'apôtre Paul. Il parle de toutes les situations qu'on peut trouver, du pervers sexuel jusqu'à l'homme religieux qui se croit bien. Tous sont en fait pécheurs. Alors, quand on regarde l'actualité de ce qui se passe actuellement, dans le pays du Seigneur, là-bas, on peut se dire, oui, leurs pieds courent pour verser le sang, hélas. Mais peut-être qu'on se reconnaît pas non plus là-dedans. Hein. Peut-être qu'on dit, non. Je répondrai que tout dépend des temps et des circonstances de la vie, heureusement. Il y a ce qui se voit et qui est inscrit dans le code civil et il y a ce qui se voit pas et qui correspond à la partie un petit peu sombre de notre cœur et qui se loge là, tapis en nous. Je vais donner comme illustration, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Forgiven qui parle de la fin de l'apartheid et comment Nelson Mandela a voulu réconcilier ses blancs avec ses noirs, il a voulu réconcilier ce qui semblait irréconciliable et il a demandé à Desmond Tutu de mener un tribunal ou d'encourager. Le but, c'était que l'État s'engageait à la clémence si ceux qui avaient commis des exactions viennent les confesser et pour que les victimes soient satisfaites que toutes ces personnes qui étaient disparues ou qui avaient été injustement maltraitées puissent trouver justice et que le peuple puisse se réconcilier Et donc, c'est un film très intéressant. Et il y a à un moment donné un policier blanc, Anzi Kodvi, qui plaide coupable devant un tribunal et devant les personnes à qui il a fait du tort là. Et son épouse, une personne blanche, donc, vient voir Desmond Tutu plus tard. Elle dit: je vous détestais. Mais elle vient après le remercier et lui pose cette question: suis-je une personne mauvaise? Elle avait ce sentiment de culpabilité qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Bon, la réponse de Desmond Tutu dans le film, n'est pas, je pense, ce qu'il aurait dit. Il aurait annoncé l'évangile à ce moment-là. Dans le film, ce n'est pas le cas. Mais bon, retenir cette question de cette dame qui était bien sous tout rapport et qui réalise: mais suis-je une personne mauvaise? C'est tous les hommes sont pécheurs. Tous les hommes sont pécheurs par nature. Le choix de Dieu s'est porté avant que Jacob ou Isaïe aient fait quoi que ce soit, parce que de toute façon, on a vu leur vie et les deux ont péché devant Dieu. C'est Dieu qui fixe les critères de ce qui est juste ou injuste par rapport à la justice de Dieu. Aucun ne méritait d'être enfant de Dieu, que ce soit pas plus Ésaü que Jacob. Et ni vous ni moi ne méritons d'être enfant de Dieu ce matin, de la même manière. Au contraire, Dieu serait injuste s'il faisait entrer dans sa famille des personnes coupables. Ça, ce serait une injustice par rapport à sa loi et par rapport à sa sainteté. Mais on apprend que Dieu n'est pas injuste en choisissant même un pécheur. Tous les hommes sont coupables, c'est la mauvaise nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que, on va le lire à la suite du texte, la suite dans Romains chapitre 3, au verset 21. Paul l'exprime ainsi: maintenant la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Si Jacob peut être déclaré juste, être choisi par Dieu, avoir sa faveur, c'est uniquement parce que Jésus-Christ allait, des siècles plus tard, sur la croix, porter ses péchés, toutes ses tricheries qu'il a faites, tous ses mensonges, toutes ses manipulations, tout ce qu'on apprend de lui, il allait, Jésus-Christ, le porter à la croix, recevoir la juste rétribution, prendre la place du coupable. Donc, Dieu n'a pas commis d'injustice par rapport à sa loi en choisissant et en aimant Jacob. Dieu n'a pas commis d'injustice non plus envers Ésaü. Dieu n'est pas injuste car bien que tous les hommes soient pécheurs, le sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Dieu n'est pas injuste parce que tous sont pécheurs, mais Dieu n'est pas injuste aussi parce qu'il fait miséricorde. C'est notre texte de ce jour qui précise cela. Dieu serait-il injuste? Certainement pas. Il a dit à Moïse: je ferai grâce à celui que je fais grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc, ce ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. La miséricorde de Dieu. Quand j'ai demandé: mais qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? On m'a donné cette réponse pour me faire comprendre et je vous la donne. C'est la miséricorde de Dieu, c'est la corde sensible de Dieu. C'est celle qui vibre dans le cœur de Dieu devant, quand Dieu voit notre misère, il y a sa corde sensible qui réagit. C'est le mot en hébreu, kesed, hein, qui est traduit grâce, miséricorde, bienveillance, bonté, amour, attachement, faveur, affection, compassion, clémence. C'est tout ça la miséricorde de Dieu. Et pour nous faire comprendre ce que c'est que la miséricorde de Dieu, c'est la parole de Dieu nous choisit une illustration. Elle apprend ici dans le texte de l'histoire de l'Exode. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de l'Exode. Bon, on connaît les films, les 10 commandements, avec la sortie d'Égypte, et l'épisode là se trouve aussi dans ce film, Exode chapitre 19. Pour reprendre un peu la chronologie, nous sommes au mont Sinaï, trois mois après la libération d'Égypte. Je vais lire quelques passages, vous pouvez lire avec moi. Exode 19. Dieu veut faire alliance avec son peuple et lui propose cette alliance. Exode 19, 4 à 8. Vous avez vu, dit Dieu, ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle, amené vers moi, au mont Sinaï. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse va appeler les anciens du peuple, il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné, et le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Et Moïse rapporte ces paroles. Ça, c'est Exode 19. Exode 20, le peuple va recevoir les 10 commandements, il va entendre la voix de Dieu, la montagne embrasée, ça va le faire trembler du froid. Exode 21 à 31, Moïse part à la rencontre de Dieu, il monte sur le mont Sinaï pour recevoir la loi, 40 jours et 40 nuits. Et puis vient Exode 32. Exode 32, on lit ceci. Verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, apportez-les-moi. » Tous ôtèrent leurs anneaux qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, il fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, « Demain il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Et le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices, d'actions de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont rapidement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils ont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple, un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi ma colère va s'enflammer contre eux, je les consumerai et je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as sorti, fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer au-dessus de la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère. Repens-toi du mal que tu vas faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce que je vous ai parlé et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Moïse retourna, descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, écrites de l'écriture de Dieu, gravées sur les tables. Je vous entendis la voix du peuple qui poussait des cris. Il dit à Moïse, il y a des cris de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce ne sont ni des cris de vainqueurs, ni des cris de vaincus. Ce que j'entends, c'est la voix de gens qui chantent. Et comme ils approchaient du camp, il vit le veau, les danses, et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables, les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au feu, il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau. Il fit boire les enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu les laisses commettre un si grand péché? Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme que tu as fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Je leur ai dit, que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent, ils me l'ont donné, ils l'ont jeté au feu. Je l'ai jeté au feu, et voici, il en est sorti ce veau. Et donc, alors on donne les explications. Moïse va prendre des mesures dans le camp, et puis il va monter devant Dieu et plaider, demander que Dieu revienne au milieu de son peuple. Chapitre 33, versets 14 à 19. L'Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je les connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux, dit Moïse. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de toutes les nations qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Et donc c'est ce qui s'est passé. Verset 34, verset 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit sur les enfants, des enfants jusqu'à la troisième, l'iniquité donc, jusqu'à la troisième, quatrième génération. Dans cet épisode, Dieu a fait miséricorde à tout le peuple. La miséricorde de Dieu, dont on fait mention ici, en disant, c'est Dieu qui a fait miséricorde, c'est pas Jacob qui ait mérité quoi que ce soit. Dieu fait miséricorde à qui il fait miséricorde, et on voit que cette miséricorde est immense, elle est gigantesque, elle est généreuse. Dieu serait-il injuste? Certainement pas. En effet, il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je fais grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Et Dieu a eu compassion absolument de tout le peuple. Donc Dieu élue ses enfants parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. L'homme n'est rien dans le choix de Dieu, cela ne dépend pas de la volonté, cela ne dépend pas des circonstances. Ainsi, ce ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce, au verset 16. Et il nous a pas élus parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour aimer. On pourrait des fois penser ça. Dieu, finalement, il nous aime parce qu'il avait besoin de quelqu'un à aimer. Non, Dieu n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un à aimer. Ça, c'est les pensées humaines. La Trinité de Dieu nous apprend qu'il y a entre Père, Fils et Saint-Esprit un amour parfait, un amour complet, dans toute sa plénitude et son épanouissement, et Dieu n'a pas besoin de quelqu'un à aimer. La justice de Dieu est pure, et l'amour de Dieu est pur. On peut avoir une confiance parfaite entre sa justice et son amour. Il nous aime d'un amour pur, et sa justice est aussi pure. L'apôtre nous propose un deuxième argument en suivant. Dieu n'est pas injuste, mais il est libre. Il est libre. Verset 17. L'Écriture dit en effet à Pharaon, « Voici pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé dans toute la terre. » Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Vous connaissez l'histoire, vous l'avez constaté. Ça ramène à l'épisode de l'esclavage en Égypte. Exode chapitre 3, verset 4, 3 et 4, chapitre 3 et 4, l'appel de Moïse pour libérer le peuple. Exode chapitre 5, Moïse va devant Pharaon, lui demande de libérer, mais Pharaon ne veut pas, et au contraire, il décide de rendre la condition des Israélites encore plus dure. Exode 6, Moïse a besoin d'être remotivé après cette tragédie. Exode 7 et 9, il y a les cinq premières plaies, et à chaque plaie, il est écrit « Pharaon endurcit son cœur et il ne laisse pas partir les enfants d'Israël malgré ce que l'Égypte subit. » Et attendez à la sixième plaie, Exode chapitre 9, versets 8 à 18. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, Exode 9, chapitre 8, la sixième plaie, « Remplissez vos mains de cendre de la fournaise, et de fournaise, de la cendre donc, et que Moïse la jette vers le ciel sous les yeux de Pharaon. Elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. » Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel, elle produisit sur les hommes, sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écouta pas Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Verset 13, l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon et tu diras, ainsi parle le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur la terre. Si j'avais étendu ma main, que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. » Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Et donc il annonce la septième plaie. Pharaon est parfaitement coupable de ce qu'il a agi, de ses agissements envers le peuple d'Israël. Il n'écoute pas Dieu et Dieu aurait pu simplement le détruire. Mais là, Dieu dit non, je vais utiliser cet homme, je vais endurcir son cœur, il va encore s'obstiner, et à travers cela, je vais montrer ma gloire, ma puissance, et je vais également faire connaître mon nom. Et le nom de l'Éternel, on l'a vu, c'est ce nom miséricordieux. Alors, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Dieu est libre, il est souverain. Entre ces deux illustrations que donne Paul, dans un cas, il y a une personne, Pharaon, qui a été endurcie. Et dans l'autre cas, il y a un peuple entier, des centaines de milliers de personnes à qui Dieu a fait grâce, à qui ont obtenu miséricorde. Une a été endurcie, des centaines de milliers ont obtenu miséricorde. Dieu est libre, il est souverain. Il a librement choisi des personnes pour les aimer, selon sa promesse. Dans la pensée humaine, si Dieu est amour, il est obligé de pardonner à tout le monde. Quand on est amour, il est obligé de pardonner. Comment ne pourrait-il pas pardonner? Mais quelle serait la valeur d'un amour qui est contraint, qui est obligé. quelle serait la perception de cet amour? Quelle serait la valeur d'un amour qui serait injuste? Jacob et Ésaü étaient deux pécheurs impurs. Dieu est libre, il est souverain. Et pour terminer donc, à la question « Dieu est-il juste d'avoir aimé Jacob et d'avoir haï Ésaü ?» Donc nous pouvons répondre que Dieu est juste, que son amour est pur et que son amour est libre. Dieu est juste, son amour envers nous est pur et il est également son amour qui est libre. Librement, il a choisi de nous aimer. Alors on a chanté plein de chants d'amour, je vous proposerai de chanter le 312, l'amour du Sauveur, tel un vaste océan. Inonde mon cœur par son flot puissant. Il est doux, il est tendre, il est immense, il est infini, il est pur, il est désintéressé. Il est libre et c'est terminé en disant pour toujours, il me suffit. C'est un petit cœur. 312. L'amour du Sauveur, tel un vaste océan, inonde mon cœur de son flot puissant. Il est doux et tendre, immense, infini, et de quelqu'un d'entre nous, est-ce que moi je peux être aimé? Est-ce que moi je peux être aimé comme ça? Alors c'est possible, il y a un paradoxe entre Dieu qui choisit les personnes et l'annonce d'un quiconque. On aura l'occasion de reparler de ça dans la suite de ces chapitres de Romains. Mais Jésus a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et en Matthieu chapitre 7, sur le magnifique sermon sur la montagne, en ses conclusions, Jésus a dit ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte qui mène à la perdition, et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il n'y a peu qui l'y trouvent. » Alors, si on voit la porte, ben il faut entrer. Il faut entrer, c'est la porte de la repentance, demandant pardon pour les fautes et être couvert par le nom de Jésus. Concrètement, comment on peut faire pour entrer, pour recevoir cet amour? Il y a des questions. Quelle question, quelle réponse on a à la question suivante? Première question. Sais-tu que tu es pécheur et que tu as besoin du pardon de Dieu? Première question. Sais-tu que tu es pécheur devant Dieu et que tu as besoin du pardon de Dieu? Du pardon de Dieu. Deuxième question. Crois-tu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Et troisième question. Crois-tu que Jésus est mort pour ses péchés, sur lequel tu demandes pardon. Est-ce que crois-tu qu'il est mort pour cela et qu'il est ressuscité? Trois questions qui appellent trois réponses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors on va faire un chanter le 320, terminé. Je vais prier et puis on va chanter sur ça. L'amour de Dieu, plus profond que la mort, plus grand que le misère, est venu jusqu'à nous. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ton incompréhensible miséricorde envers nous qui sommes des pécheurs. Merci de cette extraordinaire faveur que ta grâce, que d'avoir compris que nous avions besoin, infiniment besoin d'être pardonnés, que cette séparation entre toi et nous est terrible. Merci pour Jésus-Christ qui est venu porter notre fardeau, prendre sur lui notre injustice pour que nous recevions sa justice et que nous puissions être adoptés comme enfants de Dieu bien-aimé. Merci pour cet amour pur et parfait, cette justice parfaite. Et merci de savoir que tu nous as entièrement, librement choisis, sans contrainte, que ton amour est envers nous est parfaitement désintéressé et parfaitement réel, efficace. Jésus-Christ est mort à la croix. L'amour de Dieu, plus profond que la mort, plus grand que l'univers, est venu jusqu'à nous.